sur Radio Galère 88.4 et on part pour, comme chaque semaine, pour une heure en Palestine. Et on commence tout de suite avec les événements à venir, avec en particulier ce 8 février, ce samedi prochain, où à Paris va avoir lieu à partir de 14h une manifestation Place de la République en soutien à Georges Ibrahim Abdallah pour exiger la libération de ce militant communiste libano-palestinien ou palestino-libanais. Qui est détenu en France depuis plus de 40 ans, qui est libérable depuis 1999 et qui est maintenu en prison sous pression des États-Unis et de l'État colonial israélien, mais avec la bénédiction des autorités françaises bien évidemment. Récemment, en décembre, les autorités judiciaires ont décidé que Georges devait être libéré. Mais l'État a fait appel et immédiatement les États-Unis ont demandé qu'il ne soit pas libéré. Georges ne revient pas sur ce qu'il est, ni sur ses engagements. Et c'est pour ça qu'ils exigent qu'il soit puni. La peine de mort n'existe pas en France, la peine de mort n'existe pas en Europe. Et Georges doit sortir maintenant, il a plus de 73 ans, 72 ans. Il doit être libre, pouvoir rentrer au Liban, dans son village, avec sa famille. Le 8 février aussi, à 14h30 à Aix-en-Provence, Palestine-Liban, quelle humanité ! C'est aux 50 rues du Château de l'Horloge et un programme extrêmement riche et intéressant avec une intervention de Sbeis Bey qui parlera du colonialisme, de Samira Jarar qui parlera des corps sous la colonisation et enfin une conférence gesticulée avec Michel Benziri. Moi, français, juif, arabe, c'est quelque chose de très intéressant. Nous vous invitons à y aller. La participation est à prix libre. 9 février, à 16h30, après la manifestation de tous les dimanches, à 14h, qui a lieu à 14h à la Porte d'Aix, et bien à 16h30 à la Fraternité, au 7 boulevard Burel, tout à la Belle de Mai, rencontre avec l'Union des travailleurs et des travailleuses agricoles de Palestine dans le cadre de la lutte pour l'autonomie alimentaire. Le 12 février, à 20h aux variétés, en avant-première, From Ground Zero, du réalisateur palestinien Rachid Macharawi. Débat animé par le festival Ciné-Palestine. Prenez vos places. Et le 15 février, à 14h, au hangar. Le hangar, c'est au boulevard Sakakini, à côté du métro Chartreux. À partir de 14h30, deux conférences avec Asia Zaino sur la résistance des prisonnières palestiniennes et Samira Jarar sur le corps, santé et colonialisme, mais aussi des stands, un buffet goûté. Le bénéfice de l'après-midi sera envoyé aux blessés de Gaza évacués en Égypte. Voilà, c'est les événements dans les jours qui viennent, les prochains jours. Et tout de suite, un petit commentaire qui nous a beaucoup touché et on tenait à vous le passer. C'est quelqu'un qui est souvent sur les médias mainstream, des médias qu'on ne regarde pas et qu'on conseille de ne pas regarder parce qu'ils ne sont pas forcément très inspirants. Mais il a le mérite de tenir le même discours, un discours rare sur ces médias-là. C'est Karim Zeribi.
Je trouve scandaleux, c'est que dans le traitement politico-médiatique, on ne parle que des otages israéliens. Tu vois, là, tu m'as interrogé, je t'ai parlé spontanément des otages israéliens. Mais je t'ai parlé des Gazaouis, je t'ai parlé des otages palestiniens. Pourquoi on invisibilise la souffrance palestinienne? On ne donne jamais de nom, jamais de visage, on donne des chiffres. Quand on a eu des morts, on disait 10 000 morts, 20 000 morts, 80 morts, 100 morts. Quand tu as un mort israélien, tu connais son nom, son prénom, tu as son image, tu as de l'émotion. Et c'est légitime, un être humain est un être humain. Mais pourquoi on essaye de balayer toute émotion possible avec le peuple palestinien? Pareil pour les journalistes. journalistes qui ont été tués parce qu'ils voulaient couvrir le drame que vivaient les Gazaouis. Bah, en gros, c'est pas très grave, c'est un mort de plus. Quand on a eu 1200 morts le 7 octobre, on a eu l'impression que c'était la bombe atomique qui était tombée et qui avait fait des millions de morts. 1200 morts, je les ai pleurés. J'ai trouvé que c'était dramatique, une horreur. Pour autant, derrière, la barbarie, elle a touché les Palestiniens pendant 15 mois. Jamais on a voulu personnaliser, individualiser, pour parler d'une petite fille, d'un petit garçon, pour évoquer là des familles décimées. Jamais on l'a fait.
Voilà, c'est une parole rare sur ces médias-là. Je vais citer CNews pardon, et BFM TV aussi. Merci à lui pour ces moments stimulants. Et on va passer tout de suite aux brèves, avec d'abord des brèves générales, et puis ensuite on parlera un petit peu de Gaza et puis de la Cisjordanie, avant la deuxième partie de l'émission qui sera consacrée à un entretien avec une journaliste de la région de Montpellier. Alors merci à Karim Zeribi pour cette déclaration. Et nous allons continuer avec les brèves. Des brèves et une bonne nouvelle, avec la création du groupe de La Haye. La déclaration commence ainsi. Aucune nation n'est au-dessus de la loi et aucun crime ne restera sans réponse. 9 pays du Sud global, Afrique du Sud, Malaisie, Namibie, Colombie, Bolivie, Chili, Sénégal, Honduras et Belize, refusant de rester passifs face aux crimes d'Israël, se sont réunis à La Haye sous l'égide de Progressive International pour discuter des réponses juridiques, diplomatiques et économiques à coordonner. Le groupe de La Haye a annoncé son intention d'appuyer les efforts juridiques internationaux, y compris la coopération avec la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice, en particulier dans la poursuite des mandats d'arrêt contre les responsables israéliens. En outre, le groupe vise à mettre fin au transfert d'armes vers Israël afin de prévenir de nouvelles violations du droit humanitaire. Les 9 pays s'engagent aussi à interdire l'accès aux ports et à empêcher le transfert de carburant et d'armement vers Israël en cas de risque de violation internationale ou de génocide. Ils invitent d'autres pays à les rejoindre. Ce développement fait suite à l'action judiciaire initiée par l'Afrique du Sud contre Israël en décembre 2023, accusant le pays de violer la Convention sur le génocide. Une autre nouvelle, en provenance de Nouvelle-Zélande cette fois, où des militants lancent une hotline génocide pour traquer les soldats israéliens en vacances. Les soldats israéliens sont en vacances en Nouvelle-Zélande, a déclaré le Palestine Solidarity Network Aotearoa dans son dossier de campagne. Nous avons besoin de votre aide pour les retrouver afin que nous puissions leur faire savoir qu'ils ne sont pas les bienvenus ici. La chaîne a appelé le gouvernement néo-zélandais à suspendre les visas des soldats dans un bulletin publié le mois dernier, affirmant que les Israéliens visitaient le pays sans visa pour faire une pause et se détendre après le génocide de Gaza. Troisième information dans le même ordre, c'est la fondation In Rajab, du nom de cette fillette de 6 ans massacrée avec sa famille ainsi qu'avec les ambulanciers qui venaient lui porter secours. Cette fondation rassemble les preuves des crimes des soldats israéliens publiés par leurs propres auteurs sur les réseaux sociaux. Nos preuves solides parleront d'elles-mêmes et garantiront un processus judiciaire équitable ainsi que la justice pour les victimes du génocide. Les preuves rassemblées seront fournies à la Cour pénale internationale ou aux procureurs locaux compétents. Ainsi, dans un document déposé le 8 octobre dernier auprès de la CPI, la Fondation a identifié un millier de soldats qui pourraient être poursuivis et a recueilli 8000 éléments de preuves publiés par soldats et soldates sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Telegram et autres réseaux. Des plaintes ont été déposées en Autriche, en Allemagne, en Espagne, Italie, Suède, Thaïlande et Équateur. Plusieurs tentatives d'arrestation au Brésil et en Argentine n'ont pas abouti, les soldats ayant été exfiltrés par les autorités génocidaires israéliennes. Nous vous suggérons, pour en savoir plus, de lire le dossier publié par l'agence Média Palestine. Et puis, une triste nouvelle, puisqu'il s'agit cette fois de ce que vient de faire notre gouvernement, le gouvernement français, qui ne respecte pas la parole de la France, signataire du traité de Rome qui a créé la Cour pénale internationale. En effet, l'avion de Netanyahou a traversé l'espace aérien français pour se rendre aux États-Unis en violation des obligations légales faites à notre pays du fait de sa signature du traité de Rome et de sa participation à la Cour pénale internationale. En novembre 2024, la Cour a inculpé le Premier ministre israélien ainsi que Yoav Galan pour crimes de guerre à Gaza, engageant la responsabilité des États membres, et donc y compris la France, de les arrêter. Paris justifie son inaction en invoquant l'immunité de Netanyahou, une position critiquée pour son manque de respect, d'autant que pour la Cour pénale internationale, pour la justice internationale, il n'existe absolument aucune immunité à accorder à qui que ce soit, y compris un chef d'État. Voilà, c'était les quelques brèves d'actualité. Et puis on va aller tout de suite à revenir sur Gaza, mais sur plus largement ce qui se passe en ce moment. Alors, selon AJ+, sur les réseaux sociaux, 182 Palestiniens et un Égyptien détenus dans les prisons israéliennes ont été libérés samedi dernier, un échange de 3 otages israéliens. De nombreux témoignages font une nouvelle fois état des mauvais traitements que ces prisonniers ont subis. Nombre d'entre eux présentent des signes de torture, de maladie, de dénutrition. Selon l'association des prisonniers palestiniens, à chaque libération, nous constatons sur leur corps les traces des crimes commis contre eux, y compris une torture d'une ampleur inédite depuis le 7 octobre. Des actes de famine, une dénutrition avancée, des maltraitances médicales systématiques, ainsi que l'infection de plusieurs d'entre eux par la gale, ce qui est synonyme à la fois de dénutrition, mais aussi de conditions d'hygiène catastrophiques. La Croix-Rouge a dénoncé leurs conditions de libération. Menottés, main derrière la tête, ils portaient un bracelet avec l'inscription « Le peuple éternel n'oublie pas et poursuivra son ennemi ». Ils n'ont pas osé faire des tatouages, mais l'intention y était, ils ont marqué ça sur des bracelets. Sur les 183 prisonniers libérés, 111 ont été arrêtés à Gaza après le 7 octobre, enfermés sans jugement et sans accusation, sans charge avérée. Au total, ce sont 583 prisonniers qui sont sortis des prisons coloniales depuis l'accord le 19 janvier, contre 13 israéliennes et 5 thaïlandais. Les prochaines libérations auront lieu samedi 8 février. Et à noter que depuis ces libérations, eh bien, en Cisjordanie, plus de 300 prisonniers, otages, ont été arrêtés par les autorités israéliennes. Pour ce qui est de Gaza, des images circulant en ligne affirment que l'Égypte déploie des milliers de chars à sa frontière avec Gaza suite aux appels de Trump de relocaliser les Gazaouis en Égypte ou en Jordanie. Le bureau des médias du gouvernement de Gaza élève le bilan des victimes du génocide à 61 709 morts, en incluant les disparus, et il déclare « L'occupation retarde la mise en œuvre du protocole humanitaire et se soustrait à ses obligations. Il était prévu d'introduire 60 000 abris préfabriqués, 200 000 tentes et 600 camions d'aide humanitaire par jour dans la bande de Gaza, ce qui ne s'est pas produit. Nous tenons l'occupation et l'administration américaine pour responsable des graves conséquences résultant du non-respect de ses engagements. » Porte-parole de l'UNICEF, pour sa part, indique « La situation humanitaire reste critique pour les enfants malgré le cessez-le-feu à Gaza, qui doit être utilisé pour permettre l'entrée de nourriture, de fournitures médicales et de secours. Les restrictions à l'entrée des camions, les camions humanitaires dans la bande de Gaza doivent être levées. L'aide abordée n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des besoins de la bande de Gaza. » Si de nombreux camions humanitaires pénètrent dans l'ouest de la ville, tandis que l'occupation empêche délibérément l'entrée de tentes et de mobilhomes. Le bureau des médias du gouvernement de Gaza, nous condamnons le stockage par les agences de l'ONU des milliers de litres de carburant dans leurs entrepôts, alors que les hôpitaux de Gaza souffrent d'une grave pénurie qui menace la vie des patients. C'est-à-dire, en résumé, qu'il n'y a pas assez d'essence qui rentre dans Gaza et que les grosses associations font des stocks de manière à pouvoir faire leur boulot à peu près correctement. Par contre, les hôpitaux ne sont toujours pas approvisionnés en quantité suffisante. Le maire de Bethlaïa, au nord de Gaza, complètement au nord, s'appelle Alaa Al-Attar, indique « Nous travaillons à réparer 80% des puits détruits par l'occupation et à approvisionner 5 quartiers de la ville. L'occupation a détruit les infrastructures et les habitants sont déterminés à les réparer malgré le manque de capacité. Nous sommes maintenant confrontés à une ville totalement dévastée. Il nous faudra environ 2 ans pour redonner vie à la ville si nous disposons de machines lourdes et c'est justement ce que l'occupation essaie de prévenir. » Quant à Mahmoud Bazal, porte-parole de la défense civile de Gaza, il dit « Les habitants de la bande de Gaza sont confrontés à des conditions humanitaires tragiques et extrêmement difficiles. Des dizaines de milliers d'entre eux vivent dans la rue, sans abri ni produits de première nécessité. De multiples dépressions atmosphériques devraient frapper l'enclave, mettant gravement en danger la vie de centaines de milliers de citoyens qui vivent dans des tentes et des maisons délabrées. » De grandes quantités de débris et de bombes non explosées de l'occupation israélienne sont encore éparpillées dans les rues et sous les maisons détruites et délabrées, mettant en danger la vie des Palestiniens. Nous appelons la communauté internationale et les institutions des droits de l'homme à intervenir d'urgence pour sauver la vie des citoyens palestiniens avant qu'il ne soit trop tard. Et même si aujourd'hui le climat est à peu près favorable pour nous, eh bien, depuis ce matin, il y a des pluies terribles sur Jérusalem et certainement sur la bande de Gaza. Et tout cela met bien évidemment en danger les populations palestiniennes de Gaza qui sont dans des conditions absolument précaires, plus que précaires. Le directeur général du ministère palestinien de la Santé à Gaza indique que seuls 80 camions de fournitures médicales sont entrés dans la bande de Gaza. Le directeur de l'hôpital de campagne du ministère de la Santé à Gaza a déclaré à Al Jazeera « L'occupation empêche l'entrée de fournitures médicales et nous... » Je suis en train de m'embrouiller. « Pour les patients souffrant d'insuffisance rénale, nous avons environ 25 000 patients dans la bande de Gaza. Nous souffrons d'une pénurie de fournitures médicales et alertons sur la propagation de l'épidémie. » Les hôpitaux Al-Aouda, Kamal Adwan et indonésiens ne sont toujours pas opérationnels. La ville de Rafah est touchée à tous les niveaux, notamment dans le secteur de la santé. Nous affirmons que l'aide que nous recevons est inférieure à celle reçue précédemment. » Donc vous le voyez, malgré le cessez-le-feu, le dit cessez-le-feu, non seulement il y a encore des tirs et des meurtres de Palestiniens dans la bande de Gaza lorsqu'ils ne sont pas dans la bonne zone, mais en plus, l'occupation empêche les besoins vitaux pour la population de pénétrer parce que, oui, il y a des camions, des files et files de camions qui sont en Égypte, mais tout passe par le contrôle israélien et ne peut rentrer que ce qui est autorisé par Israël. Après, il y a quand même quelques événements qui aident, qui accompagnent un petit peu le moral. Les éboueurs de Rafah continuent de collecter et d'éliminer les déchets de plusieurs zones de la ville après le retrait des forces d'occupation israéliennes, garantissant ainsi que l'environnement de la ville reste propre et que ses habitants restent en sécurité. Voilà, ça avance tout doucement et on fait une pause musicale avec Ahmad Kabour, Onadikoum, sur des paroles d'un poète palestinien, Taoufik Zayad. Voilà, c'était Ahmed Kabour, en tout cas l'introduction à sa chanson. On part maintenant sur la Cisjordanie avec un enregistrement qui va bientôt être lancé. Et on retrouvera Francesca Albanese et puis d'autres informations. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens, Francesca Albanese, a accusé Israël de chercher à expulser de force les Palestiniens de leurs terres, avertissant que ces opérations militaires en cours en Cisjordanie occupée constituent de graves violations du droit international. Dans une interview accordée à Al Jazeera, Albanese a déclaré que les forces israéliennes s'efforçaient de vider le camp de Jenin de ses résidents dans le cadre d'une politique plus large visant à effacer la présence palestinienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Ces propos interviennent alors qu'Israël étend sa dernière offensive militaire baptisée « Mur de fer » qui a débuté le troisième jour du cessez-le-feu à Gaza, après 15 mois d'attaques génocidaires. Le gouverneur de Jenin, Kamal Abou al-Rab, a déclaré que l'armée israélienne reproduisait les destructions à grande échelle observées à Gaza en rendant délibérément le camp de Jenin inhabitable. Les explosions qui ont eu lieu dimanche sont les premières de ce genre depuis plus de 2 décennies, a-t-il précisé. L'armée israélienne poursuit son assaut sur le camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie occupée pour le 16e jour consécutif, détruisant des maisons et des infrastructures. Ce sont plusieurs dizaines d'immeubles qui ont ainsi été détruits dans différentes zones du camp et plus de 20 000 Palestiniens, près de 30 000 maintenant, qui en ont été expulsés du camp. De même, à Tul Karem, où 1500 familles ont aussi été expulsées. Et lundi, une fillette de 13 ans y a été blessée par des tirs israéliens dans le quartier Al-Aqsa, a rapporté l'agence palestinienne Wafa. La participation de véhicules blindés d'occupants à l'assaut de Tamoun, au sud de Toubas, pour la première fois depuis la deuxième intifada, indique une augmentation de la force militaire et des pressions sur les civils. À Toubas, ce sont plusieurs centaines d'appartements qui ont été évacués par force et les familles déplacées vers le village de Tamoun en leur disant « Revenez dans 3 semaines ». Ce qui se passe dans les... la démographie pour ces lieux qui ont toujours été une épine dans la gorge de l'occupation, car ils abritent les réfugiés venant de centaines de villages palestiniens détruits en 1948 sur le territoire de ce qui est aujourd'hui Israël. Le déplacement forcé des familles est une violation des droits de l'homme. Le Croissant Rouge palestinien a fait une déclaration. La situation à Jenin est très difficile avec des abus continus contre les citoyens. Nos équipes traitent des cas de coups et d'abus par les forces d'occupation. La ville se transforme en une zone déserte et complètement détruite si l'opération militaire se poursuit. S'il n'y a pas d'intervention internationale, urgente. L'ampleur du désastre à Jenin sera énorme. 50% des quartiers de la ville n'ont pas accès à l'eau, à la nourriture ou à l'électricité en raison du siège israélien. Nous avons envoyé des appels de détresse aux organisations internationales pour contraindre l'occupation à arrêter l'opération militaire. Nous avons évacué plus de 3000 citoyens de Tul Karem et Jenin au cours des derniers jours. Ce qu'il se passe en Cisjordanie aujourd'hui n'est rien d'autre que la mise en œuvre de l'accord conclu entre Netanyahou, Smotrich et Ben-Gvir en échange du cessez-le-feu à Gaza. Et d'ailleurs, ces ministres l'ont bien dit, ils allaient porter en Cisjordanie ce qui a été fait à Gaza, envoyer les Palestiniens de Cisjordanie en Jordanie et annexer de plus en plus de terres. En d'autres lieux de Cisjordanie, les forces d'occupation ont pris d'assaut le village de Kafr Khalil au sud de Naplouse. Et lors d'un nouveau crime, les colons israéliens, toujours sous la protection de l'armée, ont incendié une mosquée et un tracteur dans une communauté palestinienne d'Al-Mouarajat. Le ministère palestinien de la Santé annonce quant à lui la mort de 70 Palestiniens en Cisjordanie occupée depuis le début de l'année. 5 dans le sud de la Cisjordanie, dans la zone de Hébron, Bethléem, 1 à Jérusalem et 64 au nord, dont 10 enfants, une femme et 2 personnes âgées. Des sources palestiniennes font état de 380 arrestations par les forces d'occupation israéliennes en Cisjordanie depuis le début du cessez-le-feu à Gaza. Et selon Khan Hebrew Channel, une chaîne israélienne, le gouvernement israélien approuve la prolongation de l'état d'urgence
hier mardi. Hier mardi aussi, c'est une opération militaire qui a eu lieu au checkpoint de Tayazir, dans la vallée du Jourdain, où un Palestinien vêtu d'un uniforme de l'armée coloniale a réussi à s'introduire dans une tour de l'armée. Les affrontements ont duré près de 30 minutes avant qu'il ne soit abattu. 2 soldats israéliens ont été tués et 8 autres ont été blessés, dont 2, semble-t-il, grièvement. L'analyste militaire israélien Yossi Melman a commenté l'opération, déclarant que la Cisjordanie était à feu, à Tul Karem, Jenin, Hébron et maintenant dans le nord de la vallée du Jourdain. Quant au chef du Conseil des colonies de la vallée du Jourdain, il a décrit l'opération du checkpoint de Tayazir comme une opération très difficile. Et effectivement, cette opération réactive ce qui s'est passé un petit peu le 7 octobre 2023, où un Palestinien, là, a pu, l'armée israélienne, cette fois s'est emparé d'une tour de guet de l'armée israélienne, à partir de laquelle il a pu engager le feu contre en bas, et ça a duré pendant plus de 30 minutes. Des drones ont été envoyés sur place, mais n'ont pas pu être utilisés par crainte de blesser les soldats israéliens. Effectivement, si 2 soldats ont été tués et 8 autres blessés, eh bien, le combattant palestinien qui les a attaqués a lui aussi été abattu.
Voilà, c'était les dernières informations en provenance de Cisjordanie. On fait une toute petite pause musicale et ensuite on va aller retrouver Trump, Netanyahou et Le Monde. Un petit morceau de musique, si on a le temps encore. Oui, un tout petit morceau et ensuite Trump, Netanyahou, Le Monde et les autres. Et on rejoint cette dernière partie de la première partie avec quelques informations sur Trump, Netanyahou et Le Monde, puisqu'ils se sont rencontrés et ils nous ont fait pleurer, parfois prendre des colères, parfois rire, tellement les propositions du président Trump sont stupides. Ridicule d'ailleurs, une petite fille palestinienne a répondu à Trump en lui disant qu'elle était très bien chez elle et qu'elle n'avait pas l'intention d'aller ailleurs. On passera sans doute une prochaine fois cet entretien après l'avoir traduit. Voilà, c'est parti.
Le gouvernement de Benjamin Netanyahou pourrait s'effondrer s'il se dirige vers la deuxième phase de l'accord. C'est en tout cas ce qui se dit dans l'entourage du Premier ministre. Ainsi, le ministre israélien de la Culture, Miki Zohar, déclare « Le seul choix de Hamas est de se rendre, sinon nous retournerons à la guerre. quant à l'ancien ministre Itamar Ben-Gvir, Netanyahou doit revenir de Washington avec la promesse de continuer à se battre sans autoriser l'aide humanitaire à entrer à Gaza. Alors Donald Trump, lui, a déclaré qu'il allait discuter avec Netanyahou de l'annexion de certaines parties de la Cisjordanie à Israël. Ça marche pour les marchands d'armes US, puisque l'administration de Trump a annoncé hier soir un nouveau soutien militaire $1 milliard au profit de l'État d'Israël. Cette vente comprendrait 4 700 bombes de 1 000 livres pour une valeur de plus de $700 millions, ainsi que des bulldozers blindés fabriqués par Caterpillar, estimés à plus de $100 millions. Selon le Wall Street Journal, citant des responsables américains, Netanyahou devrait faire pression pour que les ventes d'armes dépassent les $8 milliards. Quant au Washington Post, il écrit que Trump serait intéressé par la reconstruction de Gaza à travers un accord régional avec les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Quant à Netanyahou, il a bien évidemment accepté cette proposition. Donc non seulement on va vendre des armes, mais on va aussi essayer de placer les entreprises américaines ou autres reconstruire, et puis avec les armes qui sont vendues, on pourra redétruire, bah, sauf si on annexe Gaza et qu'on y installe des amis américains ou émiratis ou israéliens dans cette jolie colonie que serait devenue Gaza après avoir éliminé, envoyé on ne sait où, les 2 300 000 Palestiniens de Gaza. Voilà le monde enchanté que nous promettent Trump et ses amis génocidaires. Voilà, une source israélienne citée par le Washington Post, qui, dans le contexte de la rencontre Netanyahou-Trump, déclare « Nous ne parlons plus d'attaquer l'Iran », a déclaré cette source. Le président américain serait intéressé par la conclusion d'un accord régional appelant à la fin de la guerre. Ben, vous savez, la guerre, c'est mauvais pour le business, selon Trump, mais ça permet de vendre des armes et de construire ce qui a été détruit. Donc c'est aussi bon pour le business et on verra qu'est-ce qui va se passer, surtout si nous n'agissons pas pour empêcher ces individus de détruire le monde, de détruire le droit international et de nous fabriquer un monde de brutes, d'arrogance, où la force sera la seule manière de cohabiter, de coexister, en écrasant les plus faibles. On voit réapparaître maintenant d'autres acteurs, c'est-à-dire l'Iran en particulier, qui déclare suivre de près la visite de Netanyahou à Washington, et puis Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui s'inquiète de la mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord du cessez-le-feu, des plans occidentaux visant à écarter la Russie, la Chine et l'Iran, et du maintien des troupes israéliennes au Liban. Un des responsables du Hamas s'est rendu à Moscou et il a été reçu en particulier par Lavrov. Quant à la ministre israélienne des colonies, Orit Strup, elle menace de dissoudre le gouvernement si Netanyahou décide de mettre en œuvre la deuxième phase de l'accord du cessez-le-feu et d'échanges de prisonniers avec la résistance palestinienne. Le chef du Hamas, pour sa part, ou un des leaders du Hamas, Oussama Hamdan, lui déclare « La deuxième phase des négociations sur l'échange de prisonniers sera importante car elle inclura des prisonniers de toutes les catégories, y compris des condamnés à perpétuité, des longues peines, les prisonniers du Hezbollah et les prisonniers de Gaza après le 7 octobre. » De leur côté, le comité de famille des prisonniers de l'occupation, les prisonniers israéliens, déclarent qu'arrêter la prochaine phase de l'accord signifie prononcer une condamnation à mort pour nos prisonniers encore en vie et l'accord d'échange doit se poursuivre jusqu'à ce que le dernier prisonnier israélien soit libéré. Voilà, nous en avons terminé donc avec cette première partie.
Nous faisons maintenant une pause musicale un petit peu plus longue et nous appelons Brigitte à Montpellier pour qu'elle nous parle de son travail de journaliste avec le journal Le Point avec un G, comme le point sur la table et ou le point levé. Et on la retrouve dans quelques minutes après cette chanson de Dominique Grange, Détruisons le mur. Thank you.
dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus. La mer, on ne s'y baigne plus.
C'était Dominique Grange, Détruisant le mur. Voilà, Brigitte, tu es avec nous? Alors Brigitte, tu es journaliste au Point. Point avec un G, comme je le disais tout à l'heure, à Montpellier. Je te laisse te présenter rapidement et nous parler de ton journal et de ta collaboration avec lui.
Ok. Donc en fait... Je travaille pour la presse indépendante et je suis plus vraiment au Point, si ce n'est quand même que les chroniques que j'écris tous les jours en lien avec l'urgence à Gaza paraissent quand même dans l'agora du Point. Mais maintenant, je travaille pour un journal de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Alter Midi. Voilà.
Parfait. Alors, écoute, depuis ton retour en France, là je viens de donner un grand coup dans le micro, j'espère que je n'ai pas fait trop de bruit. Depuis ton retour en France, tu publies donc ces chroniques, une chronique de Gaza, urgence déplacée. Qu'est-ce qu'il y a dans ces chroniques?
Donc, à partir, je crois, de la fin novembre, dans la mesure où je travaille avec un groupe qui s'appelle le groupe Gaza, qui est composé de personnes de l'Union juive française pour la paix et puis de personnes qui ne sont pas à l'Union juive française pour la paix, et en l'occurrence c'est mon cas. Et donc on était en lien avec des personnes à Gaza qui était déjà dans un projet depuis 2016 avec les paysans de Gaza. Moi-même ayant été à l'époque, en 2014, à Gaza pour la protection des paysans le long de la frontière avec Israël. Et donc les liens avec les personnes de Gaza existaient, que ce soit les liens avec Abou Amir, donc qui coordonne toujours ce travail avec les paysans, que ce soit avec d'autres personnes de Gaza avec qui j'ai eu l'occasion de faire connaissance, et également avec Marcel, qui est donc le directeur d'un centre qui s'appelle Ipsina, qui était dans le nord de Gaza et qui s'occupait des enfants et essentiellement de soutien aux enfants, de la scolarisation et puis également des femmes. Voilà. Et donc ces liens existants avant même ce qui s'est passé en octobre 2023, évidemment ces liens ont repris de plus belle et au fur et à mesure il m'est apparu évident qu'il fallait témoigner de tout ce qui se faisait et de toute la façon dont ils organisaient l'urgence là-bas, à Gaza. Petit à petit, ça s'est structuré et les chroniques contiennent à la fois l'organisation de ce qui se fait là-bas, et je pourrais le détailler après, mais ces chroniques contiennent également une réflexion sur la situation générale humanitaire et la situation politique également. Et ces chroniques, au départ, contenaient beaucoup une façon de répertorier toutes les destructions, toutes les attaques, enfin tout ce qui se passait là-bas à Gaza au jour le jour.
Alors plus précisément, ça se passe dans quelle zone de la bande de Gaza ? C'est tout petit la bande de Gaza, hein. Ça fait 500 et quelques kilomètres carrés. Mais eux étaient plutôt localisés, tes interlocuteurs étaient plutôt localisés ?
Évidemment, et ces personnes, enfin mes interlocuteurs font partie des gens qui ont été déplacés, hein, qui ont été déplacés. Donc quand je parlais de Marcel tout à l'heure, il était dans le nord et donc il a été déplacé dans cette fameuse zone où on parle de massification des camps, c'est-à-dire en dessous de Gaza, en dessous du Wadi Gaza et au-dessus de Rafah, c'est-à-dire la zone essentiellement de Khan Younes, Deir el-Bala et la zone al-Mawazi. Donc tous les camps sont là et petit à petit les choses se sont structurées puisqu'on peut dire aujourd'hui, et c'est le cas, qu'Abou Amir est le correspondant de l'Union juive française pour la paix à Gaza et qu'il coordonne toutes les actions dans les camps. Donc en gros, enfin dans les camps dont il s'occupe bien sûr, hein, et donc c'est à peu près 5 camps dans lesquels il y a eu une activité régulière et il y a toujours une activité régulière qui s'adapte à la situation nouvelle qui existe depuis l'accord du mois d'octobre.
Alors, il me semble avoir lu ou avoir entendu de la part de Pierre Stamboul, qui est un des responsables de l'UGFP, que certains paysans avaient recommencé à planter ou avaient essayé de recommencer à planter.
Oui. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans cette situation absolument terrible, il y a eu des moments de vie extrêmement intenses. Et donc, en fait, c'était pas directement le camp des agriculteurs, parce que le camp des agriculteurs qui était à Abou Taïma et à Kouza ont été chassés et se sont retrouvés dans un camp près de Khan Younes. Et donc, ils n'avaient plus leur terre, ils n'avaient plus de terre. Mais par contre, des paysans de Khan Younes qui savaient que Abou Amir avait travaillé, enfin travaillait autour de la coordination d'un travail paysan, sont venus le voir et lui ont dit que eux, ils avaient encore quelques dounoums. Le dounoum, c'est une quantité de terre.
Un dixième d'hectare,
on parlait pas d'hectare, mais de dounoum, et que eux, ils étaient prêts à recultiver. Et donc, à partir de ce moment-là, Abou Amir s'est mis en chasse, si je puis dire, de trouver des plants et de pouvoir acheter ces plants avec la collecte que nous, on organise en France, hein, et de pouvoir acheter ces plants et de pouvoir les donner aux agriculteurs qui en sont déjà, ça a été fin août, septembre, et là, ils en sont déjà à la première récolte. Ils ont récolté des tomates, ils ont récolté des choux, etc. Ça s'est fait sous serre, hein. Mais voilà, donc ça, c'est assez extraordinaire. Et par ailleurs, le camp spécifiquement des agriculteurs qui donc n'étaient plus sur leur terre, qui étaient vers Khan Younes, sont retournent petit à petit sur leur terre et seraient prêts, eux également, à s'y remettre, quoi, à replanter la terre. Voilà.
Ok, et juste quelques mots peut-être sur ce que fait Marcel pour reprendre une forme de scolarisation des enfants. Tu as eu des informations précises ?
Oui, alors la scolarisation des enfants, elle s'est faite dans 3 camps. Il y avait 3 camps, hein, sur les 5 dans lesquels il y a eu intervention des équipes, parce qu'on parle d'équipes maintenant, c'est-à-dire qu'autour d'Abou Amir, il y a beaucoup de monde, autour de Marcel, il y a du monde aussi. Donc ça s'est fait dans la tente, ça s'appelait la tente de la solidarité, et donc il y avait une tente spécifique pour la scolarisation et le soutien psychologique. De la même façon que dans le camp des agriculteurs et dans 2 autres camps également, il y avait aussi des temps de scolarisation et de soutien psychologique. Je crois que c'est très important de dire qu'une des premières activités après le fait d'acheter des tentes d'organiser des repas, ça a été le soutien psychologique. Le soutien psychologique pour les femmes, pour les enfants et pour les hommes.
Oui, merci, merci Brigitte. Alors, encore une question. Peut-être un rappel d'abord, c'est qu'on a essayé très modestement, nous, sur Marseille, de soutenir en tout cas Marcel et le travail qui a été fait. Mais il faut saluer la solidarité générale des militants en France et qui a permis à l'Union juive française pour la paix d'envoyer des dizaines et des dizaines de milliers d'euros qui ont contribué à maintenir en vie une petite partie de la population française de Gazaoui, pardon. Moi, je tiens à saluer cette solidarité. Ce sont plus de 100 000 euros. Et il faut aussi dénoncer la politique française et européenne qui limite considérablement, par des consignes données aux banques, l'envoi d'argent vers la bande de Gaza. Et nous sommes extrêmement démunis devant cet acharnement qui vise à priver de solidarité le peuple palestinien de Gaza. Je reviens vers toi, Brigitte, parce que toi, tu as vécu de ton côté, indirectement, mais à travers tout ce que tu pouvais avoir à publier, à écrire, tu as vécu ce déferlement quotidien de douleur, de souffrance, d'espoir. Comment est-ce que tu as vécu ça?
Eh bien, peut-être que je peux te dire quand chaque fois que j'anime des débats ou que voilà autour de Gaza et que je parle des chroniques, en fait, je le fais pour moi surtout. C'est-à-dire pour rester aussi, quoi, pour rester debout, parce que sinon, on s'écroule, quoi. C'est-à-dire que ça m'est arrivé d'aller à certaines conférences de médecins qui revenaient de Gaza. J'ai pas pu rester. J'ai pas pu rester parce que rester assis sur une chaise à écouter des horreurs, c'était pas possible, quoi. Donc, en fait, je crois que l'important, c'est de rester debout en face d'eux et de rester dans ce dialogue permanent, de la même façon que Abou Amir, il parle qu'anglais et moi, je parle très mal anglais. Maintenant, je traduis puisque il a bien fallu que je m'y mette. Mais des fois, il m'appelle et il me dit simplement qu'entendre ma voix, ça lui fait du bien. Et pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'alter ego et du respect de la vie humaine et du fait que, voilà, pour rester debout, bah, il faut faire quelque chose, quoi.
Oui, effectivement, c'est leur courage qui nous permet à nous de tenir debout aussi, parce que ces 15-16 derniers mois ont été extrêmement difficiles pour les militants qui voyaient l'horreur s'abattre sur le peuple palestinien et l'indifférence des, non pas du monde, mais des dirigeants du monde qui tournaient les yeux et qui regardaient un génocide se commettre sans intervenir. Alors la dernière fois, lorsque je t'ai appelé pour t'inviter à intervenir, tu as parlé d'un livre en cours de publication, un livre écrit à plusieurs mains. Alors c'est quoi ce livre? Où est-ce qu'il en est? Je crois qu'il vient de partir chez l'éditeur.
Alors en fait, en travaillant ensemble, hein, on est 5 en France, et on va dire 6 ou 7 avec Marcel et Abou Amir surtout. Et donc, au fur et à mesure, a cheminé dans notre tête le fait de témoigner de tout ça, et puis aussi de réfléchir et de présenter les choses telles qu'elles se sont passées, ce que les médias font très peu, on le sait. Et donc, on a commencé, on va dire avant l'été, à trouver une colonne vertébrale à notre livre, pas pour rajouter un livre de plus, mais plutôt pour faire en sorte que ce soit la parole des Gazaouis plutôt que notre parole à nous. Et donc, on est parti de là. Donc, ce bouquin, il est écrit à 6, c'est-à-dire 5 en France, et Abou Amir est le 6e, mais il est essentiellement constitué de leurs paroles et de la résonance de leurs paroles pour nous. Et donc, il est annoncé il s'appelle Gaza, mort, vie, espoir. Il est annoncé sur le site de la FNAC au 17 avril. Et l'éditeur a confirmé que ce serait le 17 avril. Donc, dans très peu de temps, avec les chroniques, je vais envoyer un bon de souscription, comme on fait en général dans ces cas-là, hein, pour les personnes qui veulent le financer avant et qui, bien sûr, l'auront moins cher ou auront les frais de port payés, enfin quelque chose comme ça. Mais donc voilà, on en est là, c'est-à-dire que c'est parti, il va sortir Et voilà.
Eh bien, écoute, on t'accueillera à Marseille avec un immense plaisir, à la fois à la librairie Transit, sans doute, mais aussi sur les antennes de Radio Galère au cours d'une prochaine émission, Une heure oui. en Palestine. Alors, pour terminer, Brigitte, une question. En fait, quelle est la question à laquelle tu aurais eu envie de répondre si je te l'avais posée et à laquelle tu vas répondre parce que je ne te l'ai pas posée?
Je ne sais pas, je prépare de plus en plus pour aller dans les débats qui suivent des films. Je me documente vraiment sur le film, hein, parce que il y a des terrains sur lesquels, par exemple, Pierre Stamboul est beaucoup plus fort que moi sur la question du sionisme, toutes ces choses-là. Et moi, peut-être que je suis beaucoup plus, on va dire, vivante, en tout cas, sur la question de la vie à Gaza, les gens, enfin, tout ce que ça, tout ce que le fait d'avoir vécu là-bas a pu m'apporter, a pu ouvrir et qui fait que c'est présent dans ce que je peux en raconter. Mais du coup, en général, hormis me documenter donc sur le thème du film, j'essaye de faire en sorte dans les entretiens que j'ai, de quelque façon que ce soit, sur d'autres radios aussi, de m'adapter à la personne que j'ai en face et d'essayer de répondre à ce qui m'est demandé et pas de partir sur mes propres trucs à moi. Voilà.
Ben écoute, nous, on attend avec impatience la sortie de ce livre et on attend de te recevoir à Marseille. Et puis, voilà. Merci beaucoup.
Ben avec plaisir, je viendrai à Marseille, tu le sais. C'est ma ville quand même, enfin, ex-Marseille. Quoi. Voilà.
Et puis, je crois que tu as annoncé que très prochainement, il y aurait la programmation du film Yalla Gaza. C'est à Montpellier ou...
Oui, oui. Alors en fait, Yalla Gaza, il est passé beaucoup de fois à Montpellier et moi, j'ai animé plusieurs soirées. Mais là, je travaille beaucoup ici avec la Confédération Paysanne, les semeurs et les faucheurs volontaires. Vigilance OGM 34, enfin voilà, tout ce qui est dans ce domaine-là. Et donc, en fait, on a visé les villages. Donc, en fait, Yalla Gaza passe dans un village et on a fait toute une campagne pour que ce soit les gens des villages qui viennent maintenant.
Ah ben, c'est une super idée et en tout cas, tu nous raconteras tout ça la prochaine fois. Je voulais juste te dire un petit mot avant de faire un rappel de l'actualité des prochains jours. Vous avez eu le week-end dernier à Montpellier un meeting organisé par le maire PS de Montpellier, le département de l'Hérault, le conseil régional PS,
ah, oui.
le CRIF, la LICRA et l'ambassade de l'État génocidaire. Le tout ouais. alors que le monde entier a pu voir le degré de barbarie de cet État et les atrocités faites aussi bien aux otages palestiniens qu'à la population, mais également aux otages israéliens livrés à leur sort. Le gouvernement ayant organisé délibérément l'échec des pourparlers pour les libérer. Tout cela documenté par les associations de défense des droits humains qui reprennent la déclaration de la Cour internationale de justice et documentent le génocide perpétré à Gaza. Alors là, il y a eu un truc absolument extraordinaire, c'est qu'ils ont publié aussi un article de Manuel Valls, enfin un petit extrait de Manuel Valls, qui déclare savoir donc ce que nous combattons. D'abord l'islamisme, l'idéologie des frères musulmans, mais aussi leurs complices et leurs idiots utiles, qui depuis un an ont alimenté les actes de la violence contre les juifs dans la rue, sur les campus universitaires. Jean-Luc Mélenchon et LFI, l'extrême gauche, le wokisme, qui n'ont eu de cesse d'alimenter le discours de haine à l'égard des juifs et d'Israël. Alors nous, notre déclaration est simple, les idiots utiles de l'extrême droite, celles que nous avons en France aux portes du pouvoir, celles qui est au pouvoir à Tel Aviv, ne méritent que notre mépris. Nous continuons à affirmer aux côtés de nos camarades, de nos frères et sœurs, de l'UJFP, de Tzedek en France, mais aussi de Jewish Voice for Peace aux USA, d'une autre voix juive, de International Jewish Anti-Zionist Network, et bien d'autres, que combattre l'antisémitisme ne peut se faire en soutenant un génocide. Et nous continuerons à dénoncer les crimes de l'État israélien. Que Delga, le PS de l'Hérault, le CRIF et Manuel Valls assument leur soutien à un État génocidaire et répondent devant les tribunaux compétents. Voilà ce que les organisateurs cautionnent. Est-ce que cela contribue à lutter contre l'antisémitisme? Pas pour nous en tout cas. Merci beaucoup Brigitte et à très vite à Marseille pour la publication du livre.
Ok. Et puis juste pour finir, Montpellier est très actif en fait hein, sur le soutien à la Palestine. C'est des manifestations toutes les semaines, même parfois deux fois par semaine, et énormément d'actions de boycott.
Oui, voilà. BDS Montpellier est extrêmement efficace. Voilà. On revient à l'actualité des jours qui viennent, avec le 8 février, donc je l'ai dit en ouverture, Palestine-Liban, quelle humanité, à Aix-en-Provence, aux 50 rues du Château de l'Horloge. Le 9 février à 16h30 à la Fraternité, ça t'intéresse Brigitte, au 7 boulevard Burel, rencontre avec l'Union des travailleurs et travailleuses agricoles de Palestine dans le cadre de la lutte contre l'autonomie, pour l'autonomie alimentaire. Le 12 février aux variétés avant-première de From Ground Zero du réalisateur palestinien Rachid Macharawi. Le 15 février à 14h au hangar à partir de 14h30. Une conférence avec Assia Zaino sur la résistance des prisonnières palestiniennes et Samira Jarrar sur le corps santé et colonialisme, mais aussi des stands, un buffet goûté. Le bénéfice de l'après-midi sera envoyé aux blessés de Gaza évacués en Égypte. Et bien sûr, comme chaque semaine, la manifestation à 14h, porte d'Aix, cette semaine en solidarité avec Georges Ibrahim Abdallah, prisonnier politique palestino-libanais, incarcéré en France en toute illégalité et libérable depuis 1999. Voilà, c'était une heure en Palestine, on a tenu les délais. Merci encore à Sidi pour la technique et merci à Brigitte pour sa brillante intervention. À bientôt sur Radio Galère 88.4 pour une heure en Palestine. Shalabi